Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, et nous sommes toujours ici en direct à H-Expo, le congrès de l'Union sociale pour l'habitat, il est 11h37. Et bien évidemment, nous avons démarré très tôt ce matin pour ouvrir le bal avec Yannick Borne, le président de Procivis, avec lequel nous avons commencé à parcourir et décrypter l'actualité. Donc on fait le tour des personnalités de la ville, de la fabrique de la ville, et eh bien pour fabriquer de la ville, il faut quand même songer à la financer. Voilà, et pour cela, nous avons des banques spécialisées qui sont très intégrées à la fois dans les territoires, dans les relations avec les collectivités locales, les directions immobilières, les opérateurs au quotidien. Merci Benoît Bonaventure d'être avec nous sur le plateau. Bonjour.
Eh bien, bonjour Sylvain, merci beaucoup pour votre accueil.
Vous êtes le directeur des marchés institutionnels et collectivités locales pour Arkéa Banque et institutionnelle. Merci d'être avec nous. Ainsi que notre ami Aurélien Deleu, l'habitué des antennes de Radio Immo. Vous êtes directeur du marché de l'immobilier chez Arkéa Banque. Et d'ailleurs, mon cher Aurélien, nous continuons ensemble à parcourir la France dans les territoires, puisque Benoît, vous avez une particularité chez Arkéa, c'est l'empreinte territoriale. Vous y tenez, hein ?
Ah, exactement. C'est une empreinte alors historique aussi qui tient à notre statut de banque coopérative, Crédit Mutuel Arkéa. Mais surtout sur les territoires, on a voulu être extrêmement présent. Maintenant, bientôt 15 ans qu'on a créé le pôle entreprise et institutionnelle avec mon ami Aurélien qui est juste à côté. La volonté, c'était d'être présent sur les territoires. Quand on parle chez nous du marché institutionnel, des collectivités ou de l'IMO, on travaille avec des collectivités de toute taille. Et sur la partie institutionnelle, on travaille à la fois avec les bailleurs sociaux, avec les SEM d'aménagement, les EPL, qu'elles soient d'ailleurs de gestion immobilière d'aménagement, comme je l'évoquais, des SEM d'énergie également, j'y reviendrai tout à l'heure. Une action marquée également dans le secteur associatif, et notamment la partie médico-sociale, tout ce qui a trait au handicap, à l'enfance, à la personne âgée, d'autres liens également avec le secteur HLM, et on y reviendra tout à l'heure sur les sujets de maintien à domicile notamment. Et la partie que l'on connaît un petit peu moins de notre action, qui est la partie consulaire, et notamment auprès des chambres de commerce, d'industrie, sur les activités de grands ports ou aéroports.
En fait, vous avez un spectre institutionnel, à la fois à l'échelle régionale, à l'échelle locale de la collectivité. Vous avez toutes les typologies de collectivités dans votre portefeuille, finalement.
Exactement.
Donc, société d'économie mixte de plus ou moins grosse taille, des toutes petites villes, des villes moyennes. Et également, qu'est-ce qu'ils vous disent en ce moment, ce qu'on appelle les institutionnels, avec parfois des épreuves qu'ils ont dû parcourir ces deux dernières années qui ont été particulièrement difficiles pour les collectivités locales ?
Ben, aujourd'hui, il est vrai que l'exemple le plus emblématique, je pense que c'est la situation des départements. Et notamment, on prend plein fouet la crise de l'immobilier. Et quand on rencontre des départements, notamment sur le sujet des droits de mutation, qui ne cesse de diminuer, c'est une vraie problématique. Et parallèlement, les dépenses d'aide sociale qui ne font que croître. Donc on a un effet ciseau qui
plus est... Plus de dépenses, moins de recettes.
Exactement.
Ah oui, c'est
donc
clair.
Donc l'équation paraît assez complexe à atteindre. Et on pourra faire le parallèle assez rapidement avec le logement social aussi, où le contexte, je peux le prendre depuis 2017, d'un prélèvement qui était normalement ponctuel, comme la RLS, qui impacte significativement la situation des comptes de bon nombre de bailleurs, l'évolution des coûts de construction... qui ne cesse de croître. Je vois encore l'indice de coût de construction qui était à 7,99 sur l'année écoulée. Ça me paraît excessivement élevé. Parallèlement, les bailleurs sociaux ont été impactés également par l'impact du livret A, par l'inflation. Donc c'est fait que ça fait autant d'équations qui sont complexes pour un secteur comme le logement et les collectivités locales.
On a l'impression, Benoît, quand je vous écoute, d'être dans un état de permacrise. Une crise, on chasse une autre, etc. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que vous allez me dire si je me trompe, mais il me semble que les collectivités locales sont obligatoirement tenues d'avoir un budget à l'équilibre.
Exactement.
Face à un État qui lui, alors, par contre pas de problème, on est dans le rouge depuis 1981, c'est pas grave en soi. Ce qui est très intéressant dans l'analyse, et en même temps c'est normal d'observer ce type de phénomène, c'est qu'on a un État qui enjoint précisément ces collectivités locales de faire des efforts alors que cet état-là est un état largement déficitaire. Vous avez fait allusion tout à l'heure à un chiffre qui est quand même très inquiétant, c'est la baisse des droits de mutation. C'était un des derniers leviers fiscaux, entre guillemets, qui restait au département pour déployer des politiques locales. Déjà qu'on avait perdu pour les collectivités locales et mairies la taxe d'habitation, c'est pas une double peine, c'est une triple peine hein, pour les institutions aujourd'hui.
Ah bon, on en est plus que convaincu et puis on le constate au quotidien.
Et vous arrivez. Et comment on fait quand on est banquier, comme vous, pour continuer à accompagner ? Quelle est votre logique d'accompagnement ?
Alors déjà, Sylvain, par rapport à ce que vous avez évoqué, et on l'a vu dans la presse récemment, on pouvait assez rapidement amalgamer dette d'État et dette des collectivités locales, et comme vous le rappeliez, des comptes qui doivent être à l'équilibre. Mmh. Déjà, ça c'est extrêmement important de dissocier les deux.
Très important, vous avez raison.
Aujourd'hui, et nous c'est le parti pris déjà depuis plus de 15 ans, quand on accompagne des collectivités locales, on les accompagne sur du long terme. On les accompagne sur du long terme. Et l'activité finalement du financement du secteur public est assez contracyclique par rapport à des activités comme l'immobilier pur, et Aurélien je pense en parlera directement, et permet d'absorber on va dire ces permacrises.
Alors on va revenir hein, sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est même très corrélé finalement à la fabrique des territoires. Aurélien, on a l'habitude maintenant d'échanger ensemble. Il y a quand même un phénomène, et je vais quand même vous demander de réagir, parce qu'on ne peut pas ne pas réagir, même si on sait que vous ne faites pas de politique, bien évidemment. Vous êtes des pragmatiques, vous êtes des économistes. Mais sur les 38 ministres, on a 16 ministres de plein exercice. Et c'est la première fois, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qu'on a un vrai ministère du logement. Hein, j'entends bien, pour ceux qui nous écoutent, vous avez des ministères délégués qui sont sous la tutelle d'un. Donc les 16 ministres ont des ministres délégués et des secrétaires d'État, parce qu'il y a les deux corollaires. Et là, Valérie Létard, qui était sénatrice, qui est députée du Nord, qui a piloté, je vous le rappelle, vous le savez, la Loisanne.
Sur l'ANRU, en plus.
Absolument, qui maîtrise très bien l'ANRU, qui est un bébé Borloo, quelque part. Voilà, qui a été l'un des très grands ministres du logement que nous ayons connu dans notre pays. Je voudrais juste avoir, sans faire de politique, hein, avoir votre sentiment sur cette nomination, avec un point de vigilance quand même. C'est quand même la sixième ministre du logement pour 5 gouvernements, quoi. En sachant qu'on a quand même une échéance en 2027, ça n'a échappé à personne.
Oui, bah. Tout à fait. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle.
Donc,
vous l'avez dit, on a un ministre de plein exercice, c'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs semaines, voire mois, qu'on réinsiste sur le fait que le logement est un vrai problème aujourd'hui du logement en France, de loger toutes les populations. On a une tension qui est énorme, notamment sur le locatif. On a un nombre de logements qui sort de terre qui n'a jamais été aussi bas, qui est même plus faible que l'année Covid. Donc d'avoir une ministre de plein exercice, je pense que c'est encourageant, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on veut voir ce qui va en sortir, parce que le gouvernement est quand même un peu précaire. Il faut qu'il puisse se stabiliser et qu'il soit en mesure, via des députés, des propositions de loi, de sortir quelque chose qui permette de relancer cette dynamique de l'immobilier. En sachant que si on met à part le côté politique, on a quand même des bonnes nouvelles en cette rentrée, hein, au-delà du sujet politique, c'est cette baisse des taux qui fait quand même un petit peu de bien. Et les professionnels de l'immobilier avec lesquels on travaille nous indiquent que ça repart un petit peu. En tout cas, on a à nouveau les Français qui vont voir leurs banquiers, qui se font financer pour acheter des logements aux promoteurs.
Une baisse de 0,5% qui avait déjà eu lieu d'ailleurs en juin, et 0,25%, ça représente combien ? 100 points de base en moyenne ?
Oui, alors il faut quand même dissocier les baisses de taux de la Banque Centrale Européenne qui impactent directement les taux courts, qui sont plutôt la matière de financement des promoteurs immobiliers. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une baisse de frais financiers, aux taux plutôt long terme, hein, qui sont plutôt liés à l'OAT, taux fixe, parce qu'on a quand même la chance en France de pouvoir financer son logement sur du taux fixe sur des durées longues.
Qui est une exception européenne. Oui, effectivement.
En Europe, on est les seuls à pratiquer les taux longs,
les taux fixes, ça protège les consommateurs. Alors, ministre du Logement, Valérie Létard, bonne nouvelle pour vous aussi également, Benoît ?
Je rejoins complètement le fait que ce soit un ministre de plein exercice, le fait qu'effectivement, il y en ait eu plusieurs ces 5 dernières années. Moi, je trouve très intéressant, c'est qu'il y a à la fois la rénovation urbaine et la partie logement. Pour moi, c'est extrêmement important et on l'a vu par le passé aussi, que ça avait pu porter ses fruits, comme Aurélien l'évoquait sur les précédents ministères. Concernant les taux et l'évolution des taux, ça a un impact au-delà des promoteurs, mais également anticipé sur les bailleurs sociaux, demain sur le livret A. Le livret A, aujourd'hui, le taux est bloqué jusqu'à février 2025. Aujourd'hui, on regarde l'évolution que l'on a à la fois de l'inflation et des taux courts, ce qui était rappelé à l'instant, qui ont baissé, c'est qu'on va vers une baisse du livret A. Donc ça, c'est plutôt bon également, et ça fait partie des signaux positifs qu'abordait Aurélien sur cette rentrée. Maintenant, sur ce congrès, quelles sont les attentes de la part des bailleurs? Est-ce qu'il y aura quelque chose de fait sur la RLS? Est-ce qu'elle sera éventuellement supprimée? Est-ce qu'il y a des évolutions sur la fiscalité à
RLS,
attendre?
Il faut le rappeler, donc réduction du loyer de solidarité, qui a quand même été ôtée aux investisseurs, notamment aux bailleurs sociaux, toute capacité financière à essayer d'investir. On est d'accord ou pas? Donnez-moi votre avis.
Non, en tout cas, ça aggravait les budgets, ça, on est bien d'accord.
Oui, non, mais ça a renié une partie des leviers de financement des opérateurs.
Exactement. Oui.
Parce que ce que disent les opérateurs, bien évidemment, c'est la suppression de la RLS. Hein. Faut être très clair. Justement, on va reparler, si vous voulez bien, maintenant d'un autre sujet, qui est un sujet crucial, qui est le parcours résidentiel, avec deux axes, si vous voulez bien. Il y a finalement les deux pans de la vie. Hein. Il y a l'accès au logement par, effectivement, vous avez raison, l'effondrement de l'offre locative. Hein. Je parle vraiment d'effondrement. Hein. On a pour une offre à la location des 500 dossiers, enfin, ça devient délirant, même préoccupant. Mais aussi l'adaptation du logement pour les personnes qui entrent dans l'âge, hein, et qui passent par le maintien à domicile. Parce que dans le sous-jacent de l'adaptation du logement, il y a l'idée du vieillissement des populations en copropriété dans leur appartement par l'adaptation du logement. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur.
Oui, exactement. Alors, sujet qui tient à cœur. Et tout à l'heure, dans la présentation, il y a quelque chose que j'aime à rappeler dans notre intervention institutionnelle collectivité, c'est qu'on est présent du berceau à la tombe. Ouais. Quand je dis ça...
Ouais. Alors, c'est vrai que c'est...
Dans la vie des citoyens...
C'est tellement vrai.
Mais on est à la fois dans le secteur de la santé, dans le secteur de la santé auprès des hôpitaux, et on accompagne parfois des scènes de gestion qui sont des scènes de pompes funèbres. Et finalement, dans tout cela, il y a le parcours résidentiel. Et dans le parcours...
Vous m'apprenez quelque chose, je ne savais pas qu'il y avait des scènes de pompes funèbres.
Oui, parce
des
que...
Des sociétés des communes mixtes.
Exactement. Pour donner l'accès à...
Aux plus démunis,
pour avoir des...
À la même dignité...
Exactement.
Quant à sa sépulture.
Exactement.
Je trouve ça génial. Et humainement, dans un pacte républicain, une société qui veut que chaque citoyen soit protégé par la collectivité, c'est une bonne chose.
Et donc, dans ce contexte-là, et notamment sur l'accession à la propriété, historiquement, on a été présent sur le PSLA, vous le savez. On a été présent aussi dans les premiers, notamment sur le BRS, à accompagner ces nouveaux dispositifs et puis apporter la plume, on peut le dire, apporter la plume pour aider parfois d'autres établissements bancaires à appréhender ces sujets-là et puis à pouvoir le démocratiser. Donc là, on en est plutôt fiers. Et puis, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, sur nos réseaux historiques, que ce soit au Crédit Mutuel de Bretagne ou au Crédit Mutuel du Sud-Ouest, mais on le fait aussi en dehors avec des partenariats qu'on peut avoir avec le Crédit Social des Fonctionnaires ou avec Quadra. Et ça fonctionne vraiment très bien. Et on croit en fait en ce parcours résidentiel. On sait aussi, et moi je le constate, je suis d'autant plus à l'aise, je suis revenu sur le secteur institutionnel collectivité 3 ans après l'avoir quitté. Et sauf à ce que je me trompe, je crois qu'en accession à la propriété, en âge d'accession à la propriété, on a pris 10 ans en 3 ans. Et donc ça m'inquiète.
Absolument.
Et donc ça je...
On accède de plus en plus tard à la propriété. On y accède aux alentours des 35-37 ans, alors qu'il y a seulement quelques années, on était entre 28 et 30 ans.
Et les causes sont multifactorielles, on le sait, on l'a évoqué tout à l'heure. Et donc, dans ce parcours résidentiel, on a, on va dire, un accompagnement en complément de la Banque des Territoires ou en direct sur des opérations. Je laisserai Aurélien intervenir aussi sur le libre. Mais il y a quelque chose qui, pour moi, est important, et on le voit dans les problématiques, c'est le maintien à domicile. Le plus longtemps possible des personnes, ça nécessite des adaptations. Les accompagnements financiers et les subventions sont relativement faibles sur ces sujets-là, sur des gens qui veulent rester dans leur bassin de vie. Et là, il y a une vraie équation à trouver, un accompagnement, et peut-être aussi, c'est le thème de ce salon, c'est aussi de l'innovation à trouver.
On a quand même des collègues promoteurs qui ont mis genoux à terre, et certains ont carrément arrêté leur activité quand ils n'ont pas été liquidés. Ça aussi, c'est une réalité. La réalité, c'est 2000 agences immobilières qui ont fermé. C'est 2 700 000 foyers qui sont en attente de logements sociaux. C'est 4 millions de personnes en état de précarité du logement et de dignité, d'ailleurs, du logement. C'est un vrai sujet. Combien de temps il faudra pour réparer cette catastrophe qui, dont on peut le dire, mais ça c'est la liberté du journaliste aussi, dont la cause a été une direction politique publique depuis l'avènement, le premier mandat d'Emmanuel Macron qui a été dramatique, délétère. Alors moi je rigole un peu parce que forcément je suis un peu cynique quand j'entends Emmanuel Macron en disant que le prochain combat c'est celui du logement, ou que même Bruno Le Maire s'excusant en disant il y a une chose que j'ai pas fait bien, c'est la politique du logement, en sachant qu'il a quand même eu le cran de ne pas faire la passation à Bercy. Enfin, je trouve ça absolument ahurissant. Combien de temps il faudra? Alors, certains disent 2025, 2026, d'autres prévoient les présidentielles en 2027. Qu'est-ce qu'on dit?
C'est très compliqué de donner une date. De toute façon, là, pour moi, on a touché le fond. On a, comme vous le dites...
On peut aller plus bas ou pas? Objectivement.
J'espère que non, parce qu'on est sur un niveau de production de logement qui est inférieur à une année Covid où vous aviez eu plus de 4 mois d'arrêt de chantier. En fait, le sujet, c'est qu'on ne peut pas aller plus bas. Et est-ce qu'il ne faudrait pas faire,
incroyable,
ça a été fait, des états généraux du logement où vous réunissez les promoteurs, les aménageurs, les bailleurs. À un moment donné, en fait, il faut aller sur du concret. Parce qu'il n'y a pas une solution miracle. Il y a toute l'innovation, qu'elle soit financière, qu'elle soit constructive, qu'elle soit réglementaire, parce qu'on n'a pas parlé du HCSF, mais il y a tout plein de petites choses qui grippent la machine. Et je pense, avec la baisse des taux, il ne faudrait pas grand-chose pour que ça reparte.
Ah oui.
En tout cas, il faut que ça reparte.
D'accord. Et vous le croyez vraiment?
Si je le croyais pas, je ne serais pas là, cher Sylvain.
Non, mais vous le croyez vraiment? C'est-à-dire que c'est pas de la méthode Coué, je veux dire.
Est-ce qu'on va réussir à le faire? Ça, je ne sais pas.
Mais pour retrouver une vitesse de croisière, il faudra combien de temps? On est quand même sur des cycles longs.
Ah, c'est du cycle long, là, globalement. Il faut au moins 2 ans. Un projet en maturité,
c'est ça.
Pour ressortir un permis, se mettre d'accord avec l'élu, concevoir le tout, c'est 2 ans.
Alors, on est rendu en France qui sont largement supérieurs à ceux qu'on peut connaître dans d'autres pays frontaliers.
Les chiffres sont têtus. Hein. On est quand même rendu à 2027. En sachant qu'à partir de mars 2025, il y a l'entrée en mode réserve des campagnes municipales de 2026, lesquelles précèdent l'élection présidentielle qui, inévitablement, conduira à une nouvelle recomposition des deux chambres. C'est vrai que le signal vu comme ça, c'est pas... Parce que, vous savez, les maires, un an avant, en général, ils arrêtent de signer les permis. C'est pas vrai, ça? C'est vrai. Les maires arrêtent de signer les permis.
C'est vrai, mais sauf que là, vous avez des habitants qui sont... Vous avez des collectivités sous pression. Vous avez des élus qui ne savent plus loger, notamment les salariés. Je pense que tu peux rebondir là-dessus. Les salariés des entreprises, des entrepreneurs...
Mais c'est la thématique, je voulais revenir. Parce que, est-ce que vous vous rappelez, Sylvain, du slogan dans les années 80, les emplettes sont nos emplois? Je suis persuadé que c'est les logements qui sont nos emplois aujourd'hui. Pourquoi? Et pourquoi les logements sont nos emplois? C'est que... Aujourd'hui, il ne se passe pas une rencontre territoriale que je peux faire avec les équipes en France sans qu'on me parle de cette thématique de carence, soit d'entreprises qui ne viennent pas parce qu'elles ne trouvent pas de logement pour les salariés, soit d'entreprises qui sont en difficulté parce que les gens n'arrivent pas à se loger sur le territoire. Et ce sont des situations qui sont relativement alarmantes.
Alors, je suis d'accord avec vous et je pense qu'à la réflexion, effectivement, Aurélien, ça peut avoir du sens. À condition que les maires retrouvent le statut qu'ils avaient dans la perspective d'un gouvernement, si on leur donne les moyens. Moi, j'ai une phrase. Je connais des maires qui ne demanderaient qu'à bâtir, à condition qu'on leur donne les moyens. Voilà. Parce que quand le maire vous dit « j'ai pas de bâtiment public » ou « j'ai pas les équipements pour accompagner de la croissance démographique », qui est quand même le but de la ville, quoi, de l'attractivité, moi, je ne connais pas un maire qui dit... on trouve toujours des aficionados là-dessus qui disent que moi, je veux faire de la décroissance. Vous savez, c'est très à la mode dans certaines villes. Bon. Mais globalement, vous le savez, on connaît bien les maires, vous et moi, vous aussi, Benoît. Donc, ils vous disent, moi, je veux bien accueillir. Au contraire, de créer de la vitalité, encore faut-il leur en donner les moyens. Je crois que c'est là la clé, en fait. Si on donne la clé, Aurélien, et des moyens financiers aux collectivités locales... Ils signeront les permis.
On a la chance, dans le gouvernement, il y a pas mal d'élus locaux.
Ouais. Donc, c'est une chance.
C'est un bon signe. Ouais. Oui, c'est vrai.
Un très bon signal.
J'admire votre positivité, bravo. Merci à tous les deux. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Il faut venir plus souvent, hein, Benoît.
Voilà. Avec grand plaisir.
Voilà. Benoît Bonaventure pour Urkea Banque, directeur du marché institutionnel et des collectivités locales, avec mon ami Aurélien Deleu, directeur du marché de l'immobilier. On vous retrouve bien sûr bientôt Aurélien sur les ondes de Radio Immo. Et on se retrouve justement pour Parlons Territoire. Notre prochaine date, elle est prévue courant octobre. Nous serons à Bordeaux, voilà, pour continuer à faire le Tour de France. Nous sommes des compagnons du Tour de France. On va dans les territoires pour prendre le pouls du logement, justement. Dites-moi.
Et nous aurons justement un élu local, puisqu'on aura l'élu à l'urbanisme et au logement de la ville de Bordeaux, donc qui pourra nous parler concrètement comment ça se passe sur son territoire.
Ouais, et Bordeaux, alors c'est une très très bonne initiative que vous avez prise là. Parce que Bordeaux est justement la ville typique qui a subi les aléas et les rebonds d'un marché parfois un peu spéculatif. Et quand je vois, par exemple, la baisse des prix, qui est une bonne chose en soi, je prends juste les chiffres de l'année courante, c'est 8,7% de baisse des prix à Bordeaux, ce qui est plutôt quand même intéressant, qui relance aussi le marché. Merci à tous les deux. Il est 12h02 exactement. On se retrouve dans quelques instants avec, ici, au congrès de l'Union sociale pour l'habitat, beaucoup de personnalités qui se succéderont sur le plateau. A tout de suite.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.